Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc évidemment, on va parler de Hanouka, mais on va essayer d'avoir une approche un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Maintenant, tout le monde connaît l'histoire de Hanouka. Je rappelle, juste en deux mots pour les gens qui viennent d'adhérer au club, que les Bnei Israël étaient sous la domination des Yévanim, des Grecs, et qu'ils étaient en train de les pousser à... Parce que les Grecs ne cherchaient pas à détruire le corps des Bnei Israël, ils ne voulaient pas les tuer. Ce qu'ils voulaient, c'était les assimiler, c'est qu'ils s'assimilent à la culture grecque, et que c'était une galoute qui était très très dure, un exil qui était très très dur, et les Hashmonaïm se sont révoltés, et ils ont commencé à faire la guerre, ce qui n'est pas du tout l'habitude des Bnei Israël de faire la guerre. Et là, pour une cause spirituelle, ils ont fait la guerre, et ensuite ils ont gagné la guerre, et ensuite ils ont voulu absolument remettre en place le service, la voda du Beth Amikdash. Ils ont trouvé, le Shulchan Aruch nous dit, et la Gemara nous dit qu'ils ont trouvé une fiole d'huile qui était pure, et avec cette fiole d'huile, ils ont allumé la menorah, elle a duré pendant 8 jours, et depuis ce jour-là, on a décidé de commémorer la fête de Hanouka, c'est-à-dire qui est entièrement vouée à la mitzvah de faire le shvach et la louange d'Akadosh Baruch Hu pendant 8 jours. D'accord ? Ça, c'est le résumé. Maintenant, quand on dit ça, on réfléchit que cette notion-là de Yavan, que Yavan, il fait partie des quatre, puisqu'il y a eu quatre galouyot, quatre exils, on est dans le quatrième, c'est Edom, il y a eu Paras Umadai, Yavan et Mitzrayim. Dans les quatre types de galoutes qu'il y a eu, ces quatre galoutes-là, elles sont inscrites dans le Passouk, et quand c'est inscrit, ça ressort dans Bereshit là-bas, c'est marqué que Yavan Zechosher. C'est-à-dire que la correspondance entre le Passouk, le verset, et la notion de Yavan, c'est quoi? Rocher. Alors il dit pourquoi? Shi'irshichu enehem shel Israël. Parce que les Yévanim ont obscurci les yeux d'Israël. Alors quand on dit que Yavan, c'est Rocher. Quand on dit que la Grèce, ça correspond à l'obscurité, d'accord? Ça veut dire qu'on est obligé d'imaginer que si le Nisayon, l'épreuve, elle était dans l'obscurité, dans le Rocher, alors c'est obligé que la solution, elle soit dans la lumière. Que chaque chose, elle a... C'est comme par exemple, vous êtes mouillé, alors vous prenez une serviette pour vous essuyer. Vous n'allez pas prendre un pot de confiture. Vous avez faim, vous prenez un repas, parce que la faim, c'est un problème, et le repas, c'est la solution. Donc maintenant, toujours la solution, elle correspond au problème. Maintenant, si on dit que le problème, c'est Rocher, le problème, c'est l'obscurité, d'accord, automatiquement, la solution, c'est la lumière. Donc, sous-entendu, c'était presque obligatoire que le miracle qui va arriver, il arrive par rapport à la lumière. Oui, c'est pas ça peut être une solution. Par exemple, dans la victoire, dans la guerre, ça peut être une solution. Je crois que la mer, elle s'ouvre et que tous les Grecs, ils attrapent une maladie. Et donc, non, il fallait que la solution, elle soit dans le or. Parce que le problème, il était dans le crochet, il était dans l'obscurité. Il dit, mais non, en vérité, pourquoi? Parce qu'on dit, quand on dit Irshichu Enehem, c'est très bizarre, parce qu'on dit que les Grecs, en vérité, ils représentaient la lumière de la science, la lumière de la philosophie. D'ailleurs, quand on a les humanistes au 19e siècle, 18e siècle, ils ont repris les valeurs grecques, d'accord, on les appelait le siècle des Lumières. D'accord. Donc eux, ils sont venus pour amener la lumière. Donc c'est très bizarre que comment ça se fait que les Chachamim, ils appellent Irshichu Enehem, alors que eux, soi-disant, ils ont éclairé. D'ailleurs, comment on dit quelqu'un qui est intelligent? On dit un esprit éclairé. Et comment on appelle les religieux? Obscurantistes. Oui, les gens qui vont dans l'obscurité et les gens qui vont dans la lumière. Et c'est très bizarre. Alors pourquoi est-ce que les Chachamim, ils considèrent que la culture grecque, elle a amené l'obscurité? Sous-entendu qu'ils avaient déjà la lumière dans la Torah et que l'obscurité, elle est venue de cette manière. Et cette logique-là, elle est difficile. Pourquoi? Parce que même à l'intérieur de la Torah, vous savez que dans la Torah, il y a la Torah écrite et la Torah orale. Il y a le Niglé et le Nistar. D'accord? Le niglé, c'est quoi? C'est toute l'étude du Talmud et du Pshat. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez la compréhension littérale du texte et la halakha, ça s'appelle le niglé. Par contre, toute la Kabbalah, le Sod, la profondeur de la Torah, le secret de la Torah, s'appelle le Nistar. Ça va? Maintenant, le Nistar, c'est ce qui est caché. Et le niglé, c'est ce qui est dévoilé. Maintenant, les Chachamim du Sod, les Chachamim de la Kabbalah, ils appellent le niglé le Nistar. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que pour eux, là, à la fin et tout ça, oui, c'est très bien, mais c'est pour les enfants. Mais un jour, tu vas grandir, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose de plus compliqué que la Stira de Rabbi Akiva Eiger, parce qu'il y a le Sod à Torah. Ouais, Ça s'appelle, parce que comme ça, il dit le Zohar aussi dans un autre endroit, il dit la Torah et les mitzvot, ça s'appelle le gouf à Torah, oui, mais l'étude du Sod s'appelle Nishmat à Torah, la Neshama de la Torah. Alors un jour, quelqu'un, il va arriver à la Neshama de la Torah. Ah, quelqu'un va dire, non, mais moi, c'est pas dans mon esprit, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais on sait que quand un homme il arrive à 120 ans là-haut, on sait qu'on va l'interroger sur le Chumash, et on va l'interroger sur le Tanakh, et on va l'interroger sur la Mishnah, et on va l'interroger sur la Gemara, et on va l'interroger sur l'Halakha, et on va aussi l'interroger sur Maaseh Merkava. Oui, Maaseh Merkava, ça veut dire c'est un des fondements de la Kabbalah. Ouais, c'est-à-dire c'est comme une perception imagée de la redistribution de l'énergie divine dans le monde. Oui, avec les sphirotes, avec les mondes supérieurs, avec toutes ces systèmes-là, entre guillemets, qui redistribuent la volonté d'Hachem dans le monde. Donc on va aussi l'interroger sur ça. Est-ce qu'il connaît ça? Oui, c'est comme si quelqu'un dit qu'il connaît le corps de sa femme, mais est-ce qu'il connaît la personne de sa femme? Oui, est-ce que tu connais, tu sais qu'est-ce que ton fils y fait, mais est-ce que tu sais qu'est-ce que ton fils y veut? Ben, ce qu'il veut, c'est sa neshama, et ce qu'il fait, c'est son corps. Il dit, donc maintenant, il y aura toujours cette dimension-là, que... En fin de compte, l'extériorité des choses, en même temps, elle dévoile, mais en même temps, elle cache l'intériorité. Maintenant, nous, on sait que toute la avoda d'un juif, tout le travail d'un juif, c'est toujours d'aller chercher le côté invisible des choses. D'accord ? C'est que tu dis les mots de la prière, mais tu te concentres sur la kavana. Tu mets les téfilines, mais tu as la emouna que ça crée quelque chose dans les mondes supérieurs. Tu fais le berkat Amazon et tu prononces Azan, Otanu, Ve'et, Olam, mais tu as la kavana que tu amènes la prospérité dans le monde. Tu bouges le loulav, mais tu sais que tu fais pousser toutes les forces agricoles dans le monde. Tu vas dans le mikvé et tu penses à la pureté que tu amènes dans ton corps et dans ta maison. Donc il y a toujours l'extériorité des choses et l'intériorité des choses. Et ça, c'est aussi le niglé et c'est aussi le nistar. Et maintenant, cette logique-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dit que maintenant, que Yavan, il correspond à Rocher, et que le or, la lumière, c'est ça la réponse à l'obscurité. Alors le Rav Dessler, il a un langage incroyable. Il dit « Or, Pirusho Gilouille ». Ouais, « Or », c'est quoi « Or » ? La lumière. L'explication, c'est « Gilouille », c'est un dévoilement. « Chez Mistalek, Achosher, Ve'a Esther, Mileva Adam, ou Mitgale, Lelibo, Akarat, Hashem Itbarach ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, c'est quoi la lumière ? C'est un dévoilement. Et c'est quoi le dévoilement ? Chez Mistalek Achosher, c'est bizarre, parce qu'au lieu de dire que le dévoilement, c'est le dévoilement de la lumière, il dit que c'est le fait, c'est d'enlever l'obscurité. Chez Mistalek, elle se retire l'obscurité, Ve'a Esther, et ce qui est mystérieux, ce qui est caché, Mileva Adam, du cœur de l'homme, ou Mitgale, Lelibo, Akarat, Hashem Itbarach. Alors c'est bizarre que nous, on parle de la lumière. Et lui, il parle d'enlever l'obscurité. Maintenant, on sait très bien que l'obscurité et la lumière sont en contradiction. A priori. Ouais, en général, l'obscurité apparaît quand la lumière disparaît. Ou le contraire. Ouais, quand la lumière apparaît, l'obscurité disparaît. Maintenant, si au lieu de prendre la réalité physique de la lumière et de l'obscurité, tu prends la réalité intellectuelle de la lumière et de l'obscurité, tu prends la réalité spirituelle de la lumière et de l'obscurité, ça s'appelle le Giloui. Maintenant, le guilouille, c'est quoi? C'est le dévoilement. C'est quand l'obscurité, elle s'en va. C'est comme, par exemple, un enfant, tu lui expliques une guémara. Alors, lui, il te dit, alors, qu'est-ce qu'il a dit, le rave? Le rave, il a dit, la question, c'est ça, la réponse, c'est ça. D'accord. Mais tu vois qu'il n'a pas compris. Maintenant, tu lui expliques, dans d'autres mots, ouais, tu lui fais une démonstration, et tu vois que ses yeux, on dit en français, ils s'éclairent. Maintenant, tu vois qu'il a compris. Alors, avant, comment il était? Ben, Esther. Pourtant, il connaissait la réponse et la question. Il connaissait bien. Il a eu 20 à la Bechina. Mais il a rien compris. Il n'a pas compris Bichlal, d'accord? Alors, si déjà l'enfant qui connaît la question et la réponse, il n'a pas compris le sens de la Gemara, tu crois que les gens dans la vie, ils connaissent la question et la réponse et pourtant, ils n'ont rien compris à leur vie? Le gars, il te dit, je sais que ma femme, elle a fait comme ça et elle a fait comme ça et c'est pour ça qu'elle a fait ça. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Tu sais que tu n'as rien compris. Parce que là, elle est vivante, elle n'est pas morte. Elle va t'expliquer qu'est-ce qu'elle a ressenti et tu vas voir que tu n'avais rien compris. Pourtant, tu avais la question et la réponse. Maintenant, quand toi, tu trouves la réponse, alors on dit en français, parce que tu as levé le voile, tu as levé un voile. Eh bien, le Esther, d'accord, c'est quoi? C'est l'obscurité, c'est comme l'inconnu. Maintenant, alors comment on fait pour trouver pour atteindre le connu. Attention, il faut dévoiler le connu ou il faut enlever l'inconnu. Ah, c'est la problématique. Ouais. Est-ce qu'il faut enlever l'inconnu ou il faut dévoiler le connu? Ça, je vous donne des exemples avec l'éducation parce que c'est facile. Tu vois, l'enfant, par exemple, quand tu lui demandes 4 fois 2, ouais, alors tu peux lui dire oui. Quand tu lui dis 8, tu lui dévoiles la lumière. Mais lui, il n'a pas trouvé 8. Donc quand tu vas lui dire, et 6 fois 7, il va dire 8. Tu lui dis, mais t'es bête ou quoi? 4 fois 2, ça fait 8, mais 6 fois 7, ça fait pas 8. Ah bon? Ça fait quoi? Ça fait 42. Ah d'accord. Alors tu dis, alors mon fils, alors 6 fois 6, il dit 42. Mais t'es lourd ou quoi? Ouais. Parce que qu'est-ce que tu fais toi? Le problème, c'est que quand tu dévoiles la lumière à quelqu'un, tu ne le confrontes pas à l'obscurité. Et celui qui n'a pas le malaise de la question, il n'a pas l'appréciation de la réponse. Et celui qui n'a pas eu besoin de s'adapter à la réalité, il restera bête, puisque l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Maintenant, quand toi, tu vas adapter l'enfant, c'est-à-dire en fait, tu vas prendre sa place, donc lui, jamais il va grandir. Donc toi, tu crois que tu lui rends service. Pourquoi? Parce que tu fais le guilouille du or, mais tu n'as pas fait le siloup du Esther. Vous savez, c'est quoi la vraie difficulté de la vie? Les gens y croient, les nisyonot, la mort, la maladie. Non, 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 tout ça, c'est gérable. Tu sais ce qui est dur? Le vrai problème de l'homme? La remise en cause. Ça tue. La remise en cause, c'est dur de changer. Suivre son chemin, le coléreux, il est coléreux, d'accord? Tu sais que tu as un mari qui est M'channeuf, il est M'channeuf. Tu sais que tu as une femme qui ment, elle ment. Bah, tu vas vivre. Mais ce n'est pas l'adaptation par rapport à l'autre. Ce qui est dur, c'est la remise en cause. La remise en cause, ça veut dire qu'il faut que tu enlèves ce qui t'empêche de grandir. Ça, c'est difficile. C'est-à-dire que l'immobilisme... Ouais, j'ai fait un Shabbat plein ce Shabbat. Alors j'ai dit, vous savez pourquoi le bon Dieu nous envoie des fondamentalistes? Parce que nous, on est des immobilistes. Comme on est des immobilistes, ouais, parce que nous, on est trop raisonnables dans la lourdeur. Alors, il nous envoie des fous. Parce que c'est nous qui devrions être de fous. Ouais. Un fou, c'est quelqu'un qui dit, allez, tu... Une fois, on a dit le rabbi, le coq Skrebe, c'est comme ça, un descendant du Baal Shem Tov. Il avait un niveau de Torah extraordinaire. Il était un peu spécial dans ses shitot de Kedusha, il était spécial. Un jour, quelqu'un lui a dit, mais vous avez des élèves? Il a dit, j'ai pas d'élèves. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que tu vois tous ces gars-là qui disent qu'ils sont mes élèves et qu'ils apprennent de moi et qui apprennent mes phrases par cœur et qui veulent assister à tous mes cours et tout ça. Si je leur demandais maintenant de monter sur le toit avec des pots de bêtes, ils ne le feraient pas.
Notre poids.
De monter sur le toit de la maison habillé en peau de bête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à pousser les limites. Ouais. Maintenant, ça c'est un peu gros quand même, tu dis, attends, je suis un chassid, je vais mettre des pots de bête comme un homme de Cro-Magnon, et je vais monter, et je vais faire la louange d'Hachem. C'est un peu cinglé. J'ai compris ce que tu veux dire, d'accord. Mais tu vois, quand un coléreux, ouais, il se retient de se mettre en colère, c'est surnaturel. Parce qu'il a dépassé sa nature. Et quand un radin, il fait un vrai don, pas avoir le... Vous savez, les radins, ils ont une phrase, ils disent « c'est l'intention qui compte ». Non, quand tu fais un vrai don, que tu sens que tu as mal au ventre de le faire, parce que c'est quand même 7 800 € le bijou que tu as acheté à ta femme. Ouais. D'un autre côté, elle vient d'accoucher, elle t'a fait un don elle aussi. Ouais. Tu lui achètes Wardes Swarovski, c'est mesquine, ça c'est quoi? C'est même pas pour les fiançailles, c'est même pas pour le souvenir du première date du premier jidour. Ça s'appelle « réah », d'accord? Mais là, c'est un accouchement, elle a 17 heures d'accouchement. Un bébé de 3,5 kg, un futur Moshe Rabbeinu, qui a acheté un Swarovski, il dit c'est l'intention qui compte. Il dit que t'es radin, hein, c'est mieux. Ouais. Il dit pourquoi? Parce que c'est dur pour un radin d'être généreux. Ouais. Et c'est dur pour quelqu'un qui sait qu'il a tort de se remettre en cause. C'est dur. Il dit ça, c'est l'avoda. C'est ça la vraie avoda. C'est ça la vraie avoda. C'est quelqu'un, il a la gvura de Jvirat Amidot. Ah, il commence à grandir, d'accord. Mais ça, là, ça, cet avoda de Jvirat Amidot, c'est pas un guilouille. c'est un silouk du Esther. Il faut enlever le Esther. D'accord? Il faut enlever l'inconnu. C'est, ça fait mal. Parce que Mina Rocher Yotse Or, c'est comme ça. C'est comme il y a une loi dans Shabbat. C'est, la Gemara Shabbat, elle dit si y a une, comment, c'est quoi écrire Shabbat? Écrire, vous avez une feuille blanche, vous prenez une plume et vous écrivez deux lettres. Si vous écrivez deux lettres, vous avez transgressé Shabbat parce que c'est assourd d'écrire et c'est, dans les 39 Melachot, il y a l'interdit d'écrire. Donc vous avez écrit deux lettres, vous êtes Mechalel Shabbat. Maintenant, la Gemara a dit mais si quelqu'un, il a une feuille, un parchemin qui est couvert d'encre, ça va? Et il gratte, il gratte, il gratte, il gratte, il gratte et il laisse deux lettres. Donc il n'a pas écrit de lettres. Vous me suivez ou non? Parce que si tu prends son acte, la photo de ce qu'il a fait, ils sont restés les témoins pendant 2 heures. Il a dit, attends, on va voir s'il écrit, attends. Dès qu'il commence à écrire, on lui fait une attra, on va le prévenir, assourd d'écrire. Mais il n'a pas écrit, il a gratté. C'est pas assourd de gratter, Shabbat. À la limite, c'est qu'il coule, ouais. Il a gratté, il a gratté, il a gratté, mais à la fin, il y a 2 lettres. Tu es embêté, parce que toi, tu es témoin. Tu dis, écoutez, le gars, je l'ai vu, il a fait apparaître 2 lettres, mais il n'a pas écrit 2 lettres. Il a fait apparaître 2 lettres. Alors, il a été Mechalel Shabbat ou non? Il n'a pas écrit. Vous suivez ou non? Ou la Gemara dit, si le gars, il va écrire sur une écriture, il y a déjà une écriture, il y a un Sefer Torah écrit, lui, il prend le plume et il réécrit sur une écriture écrite. Donc, il a fait le geste d'écrire. Mais il n'a pas écrit parce que c'était déjà écrit. D'accord? Mais dans la vie, c'est la même chose. La même chose dans la vie, ouais. Toi, tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un. Mais lui, il a la gava, il a l'orgueil, il a l'amour propre. Il ne veut pas écouter les conseils. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la méthode du pointillé. Moi, je fais ça. Parce que si tu dessines une fleur à quelqu'un, tu lui dis, regarde ici, une fleur? J'aime pas les fleurs. Et j'aime pas qu'on m'impose des fleurs. Et pourquoi tu veux m'expliquer la fleur? Et la fleur, ça ne m'intéresse pas. Bon, tu ne fais pas comme ça. Tu dessines des pointillés en forme de fleur. Et le gars, il regarde. Et tu fais comme ça, il fait. Tiens, c'est une fleur. Tu dis une fleur? Ah, tu as raison. En vérité, toi, tu voulais faire une fleur. Mais tu ne lui as pas imposé une fleur. C'est lui qui a compris que c'était une fleur. Il dit, ah, c'est une fleur. Et il dit, ok. Alors tu dis, moi, je voulais faire un éléphant. Mais tu as raison. C'est fait une belle fleur. Vous savez la différence entre les deux? La première méthode, c'est imposer. La deuxième méthode, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que tu vas susciter chez la personne l'idée que ça vient de lui. Eh bien, quand tu fais ça, ça s'appelle le guiloui. C'est un guiloui. Ouais. Parce que la personne, elle voit quelque chose. Et bien dans la vie, c'est pareil. Il y a des gens qui voient ce que Hachem leur fait. Il y a des gens qui voient l'amour de leur conjoint. Il y en a qui voient l'intelligence de leurs enfants. Il y en a qui ne voient pas. Tu sais pourquoi ils n'arrivent pas à voir? Parce que pour voir la lumière, il faut d'abord enlever le rocher. Il faut enlever l'obscurité, il faut enlever les a priori, il faut enlever l'amour propre, il faut enlever la bêtise, il faut enlever la lourdeur. Maintenant, même pour voir la lumière qui est en toi, il faut d'abord enlever la mauvaise image que tu as de toi. Donc ça restera toujours. Quand Rav Dessler il dit quelque chose, c'est comme si le Rajba il a parlé. Rien que casse-toi la tête, c'est tout. Ouais, c'est très très profond. Les gens ils croient que genre, c'est du moussa pour les jeunes filles, tout ça. Moi, avec 2 phrases de Rav Dessler, j'ai retourné la tête à des doctorats de philosophie. Les mecs, ils avaient la tête à l'envers. Ils m'ont dit, où il est? Qui c'est ce gars-là? Je dis, voilà, c'est un Rav. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Pirucho, or, c'est quoi la lumière? Or, Pirucho, guilouille. Ouais. C'est quoi l'explication? C'est un dévoilement. Donc, c'est pas la lumière en soi. C'est pas intéressant, la lumière en soi. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle provoque. Et qu'est-ce qu'elle provoque? Le dévoilement. Et le dévoilement, c'est quoi? C'est une ouverture. Le dévoilement, c'est une compréhension. Le dévoilement, c'est un niveau de maturité. C'est ça, un dévoilement. Par contre, pourquoi? Il dit pourquoi? Chez Mistalek à Rocher. D'accord? Parce qu'il va faire sauter, il va faire disparaître l'obscurité. Milev à Adam, du cœur de l'homme. Et on sait déjà 1 million de fois que Alev Zametsiou, que le cœur, c'est la réalité de la personne. Ou Mitgalé, l'Elibo à Karat Hashem. Maintenant, après, il a passé un niveau supérieur. C'est qu'il va dévoiler dans son cœur la connaissance d'Hachem. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas percevoir Hachem tant qu'il n'a pas enlevé l'obscurité de son cœur. C'est pour ça que quelqu'un qui est dans la matérialité, quelqu'un qui est dans la perversité, quelqu'un qui est dans le mensonge, il ne peut pas voir Hachem. Combien de fois des gens ils viennent te voir et te disent, mais Rav, ah ben, tiens, voilà, prouvez-moi que Dieu existe. Je ne peux pas. Je ne peux pas te prouver que Dieu existe. En 4 minutes, je le prouve. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas les oreilles pour écouter. Je vais parler à un chien. Je vais parler à un âne. Je vais parler à un cheval. Ouais, comment c'est possible? Comme le gars, il ne veut pas rembourser l'argent, et toi, tu lui expliques l'importance de l'honnêteté. Il n'entend pas. Comme des gens qui viennent dans le cours, et tu parles d'eux pendant une heure et demie, et à la fin, il dit à sa femme, « Ah ben, pourquoi il a parlé de toi pendant une heure ?» Mais ça ne rentre pas. Parce qu'il faut un réceptacle. Ouais. Si tu n'as pas la radio, ça ne sert à rien qu'il y ait un émetteur, puisqu'il n'y a pas les récepteurs. Donc cette idée-là, c'est quoi? C'est que pour avoir Akarat Hashem et Dvarach, pour que toi tu vois Hashem, les gens ils croient, je ne sais pas, j'étais à Grenoble là, il y a deux semaines, enfin, je ne sais plus, et il y a un gars, il est venu, il m'a dit, Brahmet Chesoud, je suis agnostique. Je dis, tu n'es pas agnostique. Il m'a dit, je suis athée. Je dis, tu n'es pas athée. Il m'a dit, alors quoi? Je dis, t'es ignorant. Je dis, combien tu as fait d'années d'Ishiva? Il m'a dit, j'ai jamais mis les pieds. Je dis, tu ne peux pas être contre une chose que tu ne sais même pas ce que c'est. Ça veut rien dire. Fais 15 ans d'yeshiva, d'accord, deviens Rosh Yeshiva, enseigne la Gemara, la Lacha et la Shkafa pendant 15 ans, et viens et tu me dis, voilà, j'ai des vraies questions. Alors là, je dis, écoute, Baba, là, tu parles, on dit en français, en connaissance de cause. Mais toi, d'où tu sors, toi? T'as vu, t'as regardé M6, t'as fait un BEP de philosophie, tu lis les journaux sur la psychologie parce que tu veux te soigner toi-même. Et avec toutes tes névroses et toute ta lourdeur et toute ta flemme et toute ta matérialité, tu dis, j'ai réfléchi, j'ai conclu que Dieu n'existe pas. Mais dans conclu, il y a clu. Il faut avoir un peu ce qu'on appelle la modestie intellectuelle.
Clou. Dans conclu.
Zolo achelek shel clou, achelek shel... Voilà. Donc c'est quoi? C'est une blague. Ça marche mieux en français, mais j'ai du mal à... J'ai pas encore branché la géolocalisation. Donc c'est quoi l'idée? Ça, c'est très important. Ça veut dire que quand la personne, elle se ment à elle-même qu'elle cherche la lumière, alors qu'en fait, elle est complice de l'obscurité. Oui. Celui qui entretient ses intérêts, il peut pas comprendre ce que c'est être désintéressé, puisqu'il entretient l'intérêt. C'est impossible. C'est antinomique. Ça veut rien dire. Maintenant, eux, ils sont fabriqués comme ça, que genre, tu peux être libre intellectuellement, même si tu es emprisonné physiquement. C'est pas possible. C'est une montgolfière. Vous savez pourquoi une montgolfière, elle monte? Vous savez pourquoi? Parce que l'air chaud, il est plus léger que l'air froid. Donc, on fait chauffer de l'air chaud à l'intérieur d'un sachet, et cet air chaud, il va soulever. Maintenant, le sac de sable, il est plus lourd que l'air chaud. Donc si tu as des sacs de sable, tu ne peux pas monter en haut. Donc tu es obligé de jeter les sacs de sable pour que ça monte. Ça s'appelle Sourmera Verasetov. Ouais. C'est que toi tu veux atteindre des niveaux dans la Kedusha, enfin dans la compréhension, donc il faut que tu deviennes Kadosh. Toi tu veux te rapprocher d'Hachem, tu es obligé de devenir Anav. Tu ne peux pas être orgueilleux et comprendre Hachem. Ouais, pour ça que celui qui a le plus compris Hachem, c'est Aïcha Anav Mikol Adam. Parce que c'est une logique inversement proportionnelle. Plus tu es dans la Anava, plus tu te rapproches d'Hachem. Par contre, le contraire, l'inverse, c'est la Gava. C'est pour ça que dans le Rochot Sadikim, la dernière des mauvaises midos, c'est la Gava. C'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que pour être orgueilleux, il faut inclure toutes les autres mauvaises midos. Toutes les mauvaises qualités, elles sont dans la Gava. C'est normal, c'est l'antithèse de Dieu. Donc maintenant pourquoi? Parce que tu peux pas être en bas et en haut. Il dit donc tu peux pas avoir le guilouille et conserver le esther. Maintenant le problème c'est que le travail que tu fais pour t'écarter de l'obscurité, il n'est pas le même travail que tu fais pour dévoiler la lumière. Maintenant bien que un est conséquent sur l'autre, mais il faut faire les deux en même temps. C'est que si quelqu'un il n'est pas, c'est pour ça qu'on dit yagarta ou matzata. Yagarta ou matzata. Tu t'es fatigué et tu as trouvé. Mais dans le dévoilement, il n'y a pas de fatigue. Je vous donne un secret. Le matin, par exemple, si vous avez des rideaux très très épais, d'accord, et vous vous êtes réveillé à 9h du matin, et il fait grand jour, mais comme il y a les rideaux très très épais, alors la chambre, elle est noire. Ne vous énervez pas. Hein. Mais quand vous ouvrez les rideaux, vous n'avez pas allumé le soleil. Non, il y en a qui croient que quand ils ouvrent les rideaux, ils allument le soleil. Non, le soleil, il était déjà allumé. Le problème, c'est que le rideau est très épais. C'est pour ça que je vous disais toujours dans une blague, je vous ai dit, mais si on allume une ampoule de 3000 watts dans une pièce, est-ce que la pièce est éclairée? 3000 watts. 100 watts, ça éclaire une pièce, d'accord? 3000 watts, tu peux faire griller des poulets. Donc, quand il y a une ampoule de 3000 watts dans une pièce, est-ce que la pièce est éclairée? Oui, non, n'aie pas peur, on est entre nous. Oui. J'ai dit non, ça dépend de l'épaisseur de l'abat-jour. Qui c'est qui dit ça? Le Kobet Shiurim. Oui. Il dit, si quelqu'un, ça lui sert à, si quelqu'un, il n'a pas enlevé ce qui l'empêche de croire, il ne croira pas. Donc la mitzvah de Emouna, c'est pas de croire, parce que croire c'est évident, parce que la lumière elle est allumée. Le travail, c'est pas de croire. Le travail, c'est d'enlever ce qui t'empêche de croire. Maintenant, tant que tu as des intérêts, tant que tu t'es refusé dans une forme d'intellectualisme qui te permet de coucher avec la voisine sans avoir de problème de complexe, ouais, tant que tu te mens à toi-même, tu peux pas voir la lumière parce que l'abat-jour, il est trop épais. Donc la mitzvah, c'est pas d'allumer la lumière parce que la lumière, elle est allumée. La mitzvah, c'est d'enlever l'abat-jour. C'est pareil. La mitzvah, c'est pas de dire je comprends rien à mon conjoint. La mitzvah, c'est d'enlever ce qui t'empêche de ne pas comprendre. Et ce qui t'empêche de ne pas comprendre, c'est ton orgueil, ton égoïsme. Donc quand tu enlèves l'abat-jour, mais c'est évident. Moi j'ai dit, hein, je ne le prenais pas mal. Les trois quarts des gens ont tout pour être heureux, mais ils veulent pas enlever l'abat-jour. Mais ils ont tout pour être heureux. Mais ils veulent pas enlever l'abat-jour. Des fois, l'abat-jour, ça s'appelle les angoisses. Des fois, l'abat-jour, ça s'appelle la convoitise de comparer avec l'autre. Des fois, c'est le regard de l'autre. Des fois, c'est un aspect négatif. Des fois, c'est une vision qu'on leur a donnée depuis qu'ils sont petits. De toute façon, t'es nul, de toute façon, tu réussiras jamais. Maintenant, le gars, il a réussi, mais comme son père lui a dit qu'il réussira jamais, donc il attend que ça va arriver, qu'il va pas réussir. Parce que son père, c'est son repère. Et bien, ça, c'est son abat-jour. Maintenant, tu dois faire une teshuvah, ou tu fais une thérapie, ou tu vas vomir, ou tu te soignes. Ou tu prends des bêta-bloquants pour enlever cet abat-jour. Enlève l'abat-jour. Comment on appelle enlever l'abat-jour? Il dit « Umistalek achosher ».
Ce n'est pas facile.
Pourquoi je suis venu? Sinon vous allez dire « À quoi il sert le rabbin ?» Franchement, on n'a pas besoin de lui. D'accord? Donc, maintenant moi je suis obligé de poser la question, de poser le problème avant de parler de la solution. D'accord. Maintenant, pendant le problème, il y a un malaise, et pendant la solution, il y a un plaisir. Maintenant, c'est comme vous voulez. Sinon, je commence par la solution, après vous allez dire, c'est quoi le problème? Minachosher yotzeo. La gada, c'est derech teshuva, sheila vetshuva. Il faut la question, il faut la réponse. Ça pourrait... Nous, on fait tout pour que nos enfants, ils évitent de souffrir, mais peut-être que c'est à cause de ça qu'ils vont souffrir, parce qu'on leur a toujours évité de souffrir. Donc, c'est quoi l'idée? Ça veut dire que, on a compris maintenant, que le or, ouais. Ah ouais, alors il termine le Rav Dessler, il dit, Vezoi tachlit abria. Et c'est ça le but de la création. C'est qu'Hachem, il n'a créé le monde que pour une seule chose, ouais, c'est Akarat Hachem Idbar. C'est la reconnaissance d'Hachem. D'accord? Maintenant, la Akarat Hachem, elle ne peut venir que par le dévoilement, et le dévoilement ne peut venir que par la Istalkut du Rocher. D'enlever l'obscurité, d'accord? Maintenant, si on dit que le but de la création du monde, donc c'est le or, c'est cette lumière-là, et que c'est la création qui a rendu possible le dévoilement, ça va toujours, d'accord? Donc, il a fallu créer la bria. Et bria, c'est quoi? Bereshit bara, bria, c'est créer à partir de rien. Donc, c'est pour ça qu'Hachem, il était obligé de créer la bria. Maintenant, Hachem a créé la bria, mais n'a pas créé la lumière. C'est pour ça qu'on dit Yotzer Or ou Boré Rocher. D'accord? C'est bien. Alors, vous n'avez pas écouté le cours sur la lumière. C'est pas grave, je vous fais un petit résumé. D'accord? Quand c'est marqué Vayomer Elohim Yehi Or, Vayi Or, d'accord? Là, il y a un cours, si vous voulez écouter, de Yehi Ben Chetri. Est très compliqué, il y a des rochers colélim qui l'ont écouté déjà 62 fois, et des chercheurs au CNRS qui ont renoncé à le comprendre, d'accord? Parce que c'est très compliqué. Mais en réalité, c'est quoi? Le Midrash, il dit Amar Rabbi Yehuda, c'est quoi? Vayomer Elokim Yehior, et dit Gvar Aya. Elle existait déjà. Parce que la lumière, elle a toujours existé. Seulement que c'est. Pourquoi? Parce que c'est quoi la lumière? Avant qu'Hachem y crée l'univers, qu'est-ce qu'il y avait? Non, il n'y avait que la lumière. Parce que c'est quoi la lumière? C'est le Ratson Hachem. C'est la volonté d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans le monde? Ça s'appelle Or Ensof, la lumière infinie. Maintenant Hachem, pour faire apparaître la matière, il a été obligé de créer un espace de non-lumière. Ouais, et la non-lumière, c'est le Rocher. Maintenant, il a créé ce Rocher qui est la non-lumière. C'est pour ça qu'à l'époque, je vous avais dit, c'est pour ça que la matière, si vous avez remarqué, la matière n'est pas lumineuse. La matière reflète la lumière, mais elle n'est pas lumineuse. Quand vous êtes dans une pièce, il y a plein, il y a le canapé, il y a la table, il y a les enfants, il y a tout. Mais quand tu éteins la lumière, il n'y a plus rien. Tu ne vois plus rien. Mais quand tu allumes la lumière, tu vois. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu crois que tu vois l'objet? Non, tu vois le reflet de la lumière sur l'objet. Donc la lumière, elle part de l'ampoule, elle rebondit sur la matière, et elle va au fond de ta rétine, elle crée une image inversée qui est interprétée par ton cerveau sous la forme de l'objet. Voilà. Ça s'appelle la vision. D'accord? Donc en vérité, tu ne vois pas l'objet. Tu ne vois pas l'objet. Tu vois la lumière qui se reflète sur l'objet. Maintenant, étant donné, je sais, je vous fais un petit raccourci, mais comme vous êtes des gens très intelligents, vous allez vite vous remettre. Étant donné que on dit que Orot Zeretzonot, que la lumière c'est la volonté, donc essayez d'imaginer que de la même manière que le rayon lumineux il fait apparaître la matière dont tu es conscient, et bien imagine que ce rayon lumineux il représente le Ratson Hashem. Et que Hachem, il fait en même temps qu'il crée la matière, parce qu'il est boré d'Arolam au présent, il crée le monde en temps réel, mais en même temps, il te donne la conscience que le monde existe. Donc le rayon lumineux, il part sur l'objet, et en même temps, il revient dans ton œil et il te donne la conscience que l'objet existe. Donc Dieu, il te donne, il crée et la matière et la conscience de la matière. Voilà, ça va. Parce que comment tu sais que la matière existe? Parce que tu en as conscience. D'où est-ce qu'elle vient la conscience? Elle vient de la Neshama. Qu'est-ce qu'elle produit la Neshama? Le Ratson. Et d'où il vient le Ratson? Parce que c'est du Ratson Hachem que tu utilises à des fins humaines. Donc le Ratson Hachem qui sort de ta Neshama, qui crée la conscience, et le Ratson Hachem qui crée le monde en temps réel, ils se rencontrent les deux et ça donne la vision. Ah, maintenant toi tu crois que la fleur est en train de pousser. C'est une formidable illusion d'optique. Et si tu vas dire, écoutez, il faut écouter Rab, il faut rester calme, je ne sais pas ce que vous avez fumé. Le problème, c'est que les scientifiques Goy sont d'accord avec ça. Parce que les scientifiques Goy disent, est-ce que le monde existe? C'est-à-dire que si tu prends le monde, non pas au niveau de ce que tu vois, mais au niveau de la masse des molécules qui le constituent, donc il n'y a rien qui existe. Là, par exemple, vous voyez, il y a la rampe en fer. Il y a de l'air. Et là, il y a ma main. Et là, il y a mon costume. Et là, il y a ma cravate. Mais ça... C'est des atomes. Ça, c'est des atomes. Ça, c'est des atomes. Ça, c'est des atomes. Maintenant, les différentes concentrations d'atomes, ça donne de la matière, plus ou moins dure, d'accord? Et les longueurs d'onde de l'atome, ça donne la couleur. Donc, ce que tu vois, c'est des atomes organisés de manière différente selon l'espace géographique dans lequel ils ont été redistribués. Voilà. Donc, en vérité, ce monde-là, c'est une illusion d'optique. Les Chachamim, ils n'ont pas attendu la physique quantique ou la Freud ou Einstein. Ils ont dit Alma de Shikra. C'est un monde de mensonges. Mais pas le mensonge de la névrose, genre, ils sont tous des menteurs. Genre, maintenant les Chachamim, ils sont devenus des névrosés psychopathes. Non. Alma de Shikra, ça veut dire que c'est un monde d'illusion. C'est pas grave. Je vous donne un secret, hein, ça reste entre nous. Pour que toi, tu aies un rapport avec le monde et pour que toi, tu évolues dans le monde, on n'a pas besoin que le monde soit réel. En vérité. Vous savez ce qu'ils ont créé pour les pilotes? Avant, ils se sont dit, attends, on va pas le mettre, on va pas le mettre 1000 heures dans un avion. Alors, ils ont créé des simulateurs de vol. Alors, si on a fait un simulateur de vol et que ça te donne l'expérience d'un pilote, peut-être qu'on peut faire un simulateur de vie et te donner l'expérience de l'homme.
Ça peut voler.
Ah, si. Ecco. Ça, vous comprenez ça ou non? Oui, non, oui, non, oui. N'aie pas peur, on est entre nous. Ouais. Donc peut-être que sous ce olam, c'est un simulateur de vol. Le caractère de ta femme, le client que tu n'arrives pas à décrocher, ton fils qui comprend rien, tout ça c'est un simulateur de vol. Et lui, c'est un simulateur de vol pour toi, et toi, tu es un simulateur de vol pour lui. Voilà. Et lui, il va grandir grâce à toi, et toi, tu vas grandir grâce à lui. Et à la fin, on va dire, alors, combien tu as fait d'heures de vol? Est-ce que tu as atteint ton diplôme de pilote? Est-ce que tu pilotes ta vie? Ou non? Ou alors, elle est pilotée par quelqu'un d'autre, qui n'est pas toi-même. Et etc. Donc, tu es resté dans l'obscurité, parce que tu n'as pas atteint la lumière. Donc en fait, la lumière, c'est la maturité. Et l'obscurité, c'est l'immaturité. C'est pour ça que tous les gens qui ne trouvent pas la lumière, ils passent beaucoup d'années à l'ombre, en prison. C'est l'endroit de l'immaturité. D'accord ? C'est pour ça qu'ils préfèrent l'ombre. Et cette logique-là, donc c'est ça s'appelle Yotzer Or ou Borer Rocher. Que Hachem n'a pas créé la lumière parce que la lumière elle existait déjà. Mais il a transformé la lumière. Yotzer, tu prends du bois, tu le tiens Yotzer Oto en meuble. Et tu prends de la terre et t'es Yotzer Oto en vase. Yotzer, c'est pas créé. Le seul, Rachid explique bien, le seul verbe qui exprime la création à partir de rien, Bria, Yesh, Me'ain, c'est Boré, c'est tout. Tous les autres, Ose, Yotzer, transformé, développer, changer, améliorer, transformer, tout ça, c'est des autres verbes. Mais le seul verbe créer, le verbe créer, c'est boré. D'accord ? Donc quand c'est marqué qu'Hachem, il est Yotzer Or, donc il n'a fait que former la lumière, c'est-à-dire il a transformé la lumière originelle pour qu'elle soit accessible et viable à l'homme, sous sa forme la plus élémentaire, qu'on appelle en français l'énergie, parce que l'énergie, c'est la volonté d'Hachem transformée, d'accord ? Être viable, comme ça il dit le Rav Munk, qui était quand même assez religieux, je pense, ouais. Et d'un autre côté, par contre, le Rocher, il a créé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on était obligé de créer le Rocher? On a expliqué pourquoi. Parce que le Rocher, l'obscurité, c'est ce qui, le Eritim Tse du Giloui. C'est ce qui rend possible le dévoilement. Parce qu'il ne peut pas y avoir de dévoilement sans obscurité. Et comme le but de la création, c'est le dévoilement de Dieu, et que le dévoilement ne peut se faire que grâce à l'obscurité, et que l'obscurité, c'est quoi? C'est la création, donc il était obligé de créer l'obscurité, donc la héritime, c'est du développement. Voilà. C'est QFD, ce que fait Dieu. Alors, si c'est comme ça, ça veut dire que le Rocher, ouais, si on dit que la Bria, c'est ce qui permet le dévoilement, et que la lumière, c'est ce qui est le fruit du dévoilement, donc comment, qu'est-ce que c'est en fin de compte le Rocher? Le Rocher, c'est le Nissayon. C'est l'épreuve. Parce que c'est l'épreuve qui amène le dévoilement. Ouais. C'est, toujours, j'ai dit, c'est quoi un examen? Examen, examen. On dit un examen. Ex, c'est extérieur. Âme, c'est ton âme. Ça fait sortir ton âme. Pourquoi? Parce que quand tu es à l'école, y a tes copains, il y a tes livres, il y a tes cahiers, il y a la classe, il y a l'ambiance. Mais quand tu vas à l'examen, il y a une feuille, un stylo et toi. Et le sujet. Toi, tu dis, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas les encouragements, il n'y a pas le prof, il n'y a pas tes parents, il n'y a pas la récompense, le cadeau, le VTT, il n'y a rien. Il y a une feuille, un stylo et toi. Tu viens avec ta connaissance et tu dévoiles. Ou tu vas dévoiler que tu es devenu ce que tu as appris, parce qu'on ne va pas te donner les mêmes exercices qu'à la maison. On va te donner un autre exercice. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut savoir, est-ce que tu as appris la leçon? Est-ce que tu as intégré la leçon? Est-ce que tu es devenu la leçon? Et si tu es devenu la leçon maintenant, tu vas pouvoir répondre à n'importe quelle question. Si tu n'es pas capable de répondre, ça veut dire que tu n'as pas le niveau de maturité. Donc, il n'y a pas eu le dévoilement. Donc, on t'a créé un Rocher, on t'a créé un Nissayon, et malheureusement, tu ne l'as pas utilisé pour faire un Giloui. Comme beaucoup de gens. Ouais, toujours, mais comme dans l'éducation. Quelle différence entre l'élevage et l'éducation? L'élevage. Par exemple, si toi tu as 5 filles, d'accord, et tu les appelles mes poules, mes poules, mes poules. Ouais. Maintenant, imagine le gars, il a 3000 poules. C'est un éleveur de poulets. Maintenant, quelle différence entre un éleveur de poulets, de poules, et un père de 5 filles? Quelle différence? C'est très simple. C'est que l'élevage ne fait pas évoluer la personne. Mais l'éducation fait évoluer la personne. Donc si tu vois que quelqu'un évolue grâce à ses enfants, c'est qu'il fait de l'éducation. Si tu vois que quelqu'un n'évolue pas, c'est qu'il fait de l'élevage. Et le nombre ne change rien. Et les années ne changent rien. Ça ne change rien, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais enfin, écoutez, ça fait quand même 15 ans, ça fait quand même 20 ans, ça fait quand même 30 ans. Mais tu vois, l'éleveur de poulets, ça fait 35 ans qu'il s'occupe des poulets, il a toujours le QI d'un oiseau, le QI-QI. On dit une cervelle de moineau, de poulet. Ouais, et ben ça c'est pareil. C'est-à-dire que tu n'as pas profité du Nissayon pour atteindre le Giloui. Tu n'as pas profité de l'épreuve pour atteindre le dévoilement. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis toujours, tu n'as pas profité de ta femme pour devenir un mari. Tu n'as pas profité de ton mari pour devenir une épouse. Tu n'as pas profité de la maladie pour tirer les leçons. Tu n'as pas profité de ton dépôt de bilan pour avoir un business propre. Tu n'as pas profité de tes enfants pour devenir un parent. C'est dommage, parce que pourquoi le bon Dieu va te créer un rocher si tu n'as même pas dehors ? Et la preuve, c'est que celui qui ne veut pas faire le dévoilement, son rocher devient de plus en plus rocher. Son obscurité de plus en plus obscure. Et il s'enfonce dedans et il trouvera toujours que c'est à cause de l'autre, à cause de... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme une boule de... Imaginez une boule en acier, en inox, brillante. Toute une boule en miroir. D'accord ? Et cette boule, elle est là. Elle est là. D'accord ? Maintenant, si elle est là, elle est entièrement en miroir. Donc moi, je me vois dans cette boule. Ça va ? Mais vous aussi, vous vous voyez dans cette boule. Et vous aussi, vous voyez dans cette boule. Ça veut dire que si entre moi et ma femme, il y a une boule qui s'appelle une épreuve, qui s'appelle une situation, moi, je dois voir ma part de reflet dans la situation et toi, tu dois voir ta part de reflet. Alors, pourquoi j'ai choisi une boule ? Parce que moi, normalement, quand je suis là, je ne peux pas aller de l'autre côté pour regarder ton reflet. Puisque je suis de ce côté, je vois mon reflet. Mais si moi, je m'occupe de ton reflet à toi et toi, tu t'occupes du mien, jamais on évolue. On ne grandit pas. Quand moi je m'occupe du problème de l'autre, parce qu'il y a deux solutions. Ou tu as épousé un demeuré et toi une malade mentale, ou tu as épousé quelqu'un de normal. Maintenant les gens normaux ils évoluent tout seuls. Et les demeurés, il faut s'occuper d'eux. Donc si toi tu es tellement occupé à t'occuper de l'autre que tu as oublié de t'occuper de toi, c'est que tu as épousé une folle. Maintenant c'est vachement confortable d'avoir quelqu'un à s'occuper. Comme ça, ça t'évite d'avoir à gérer le vrai problème qui s'appelle la remise en cause. Mais si, Béhémet, tu n'es pas concerné par la situation dans laquelle tu es, pourquoi le bon Dieu t'a mis sur la photo ? Donc pourquoi il y a ce rocher qui te paralyse et qui te saoule si tu n'as pas un potentiel dehors de lumière dedans ? Donc tu as, oui, un potentiel de lumière. Ouais. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Encore une fois, le Rav Dessler. Bema Amar Yehi Or, lorsque Hachem a dit Yehi Or, que la lumière soit, Nidgalta Behinata Giloui. Oui, elle a été dévoilée, la dimension, le principe du Giloui, du dévoilement. Donc, ce n'est pas que Dieu maintenant, il a dit que la lumière soit. Ce n'est pas intéressant, genre il allume la lumière, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ouais, ce n'est pas intéressant qu'il allume la lumière. Ce qui est intéressant, c'est qu'en allumant la lumière, il a dévoilé des choses. C'est comme si toi, tu es dans une caverne. Ouais, et tu as des allumettes. Mais chaque allumette, elle éclaire un tout petit peu. Alors tu fais hop, ah. Maintenant, il y a des gens, ils ont allumé, ils ont vu un tosfot. Mais avec ce tosfot, ils sont tellement intelligents qu'ils ont compris 74 tosfot. Il y en a avec le tosfot, il a compris le tosfot. Il y en a avec cette expérience qu'il a eue. Il a fait un pas dans la maturité, ça lui a répondu beaucoup de choses. Celui-là avec cet accident, il a grandi. Celui-là avec ce soupçon d'adultère, il a sauvé son couple. Parce qu'il y a un soupçon d'adultère, alors il s'est énervé. Après, il a réfléchi. Après, il a dit, pourquoi elle parle tellement avec ce monsieur ? Alors, en fait, c'est parce qu'on ne parle jamais. Donc, si on ne parle jamais, c'est moi qui ai créé l'espace pour ce monsieur. Donc, c'est moi qui dois renforcer mon couple. Donc, c'est moi qui dois mettre la communication en place. Donc, c'est moi qui va sauver mon couple. Donc, heureusement qu'il y a eu ces soupçons d'adultère. C'est pour ça que les Chachamim disent que c'est très grave de se moquer du chant de Hadgadia. Parce que c'est ça, Hadgadia. Hadgadia. Ouais. C'est ça, Hadgadia. Hadgadia, qu'il n'y avait pas de communication. Hadgadia, que toi et ta femme, vous ne parlez pas. Hadgadia, que maintenant, elle a trouvé quelqu'un à qui parler. Hadgadia, que toi, tu t'es rendu compte. Et Hadgadia, que tu t'es vexé et que tu as envie de la tuer. Et Hadgadia, que tu as réfléchi et que c'est de ta faute. Et Hadgadia, que tu vas sauver ton couple. Hadgadia, Hadgadia. Vas-y, chante Hadgadia. Toute ta vie, tu chantes Hadgadia. Ou non, tu crois. Tu restes un bred et après, quand tu arrives à Pessah, Hadgadia, Hadgadia. Les enfants, je suis fatigué, on le fait l'année prochaine. Mais c'est le chant de Hadgadia, c'est en philosophie, ça s'appelle la loi de la causalité. C'est la loi de la causalité, t'as pas compris qu'il y a des conséquences et qu'il y a des causes. Maintenant, si tu es malin, tu remontes à la cause première, et si tu es intelligent, tu comprends que la cause finale, la conséquence finale, Hachem, il va venir, il va tuer le Malach HaMavet. Hein. Et le Malach HaMavet, c'est le Yetzirah, et le Yetzirah, on va le tuer avec Mashiach. Donc à la fin, on va tuer le Yetzirah. Alors pourquoi est-ce que toi, tu te laisses tuer par le chien, et tu t'engueules avec le chat, et tu te prends la tête avec le feu? Et après, t'as pas compris, c'est une histoire. Donc c'est pas l'histoire qui est intéressante. C'est quel dévoilement tu as eu grâce à cette histoire. C'est pas les événements qui sont intéressants. C'est comment tu as grandi grâce aux événements. C'est pas les problèmes de couple qui sont intéressants. C'est comment vous les gérez. Si vous les gérez en couple, ça vous fait grandir. Si vous les gérez en personne, ça vous fait pas grandir. Maintenant, tant que tu diras c'est toi, c'est moi, c'est ta famille, c'est ta race, c'est ta mère, ça marchera jamais. Mais si tu dis nous avons un problème avec mon caractère, et nous avons un problème avec ta maman, et nous avons, c'est pas que toi t'as un problème, ou moi j'ai un problème, c'est que nous avons un problème. Donc quand on gère les problèmes de couple en couple, le couple il évolue. D'ailleurs c'est comme ça qu'on mesure si on a un couple qui a évolué ou non. Si après 30 ans on est encore en train de dire toi et moi, maintenant je laisse chacun faire les calculs, ouais. Mais si on arrive à dire nous, ouais, c'est-à-dire on arrive à se sortir de ce rocher de l'amour propre et ce rocher de l'entêtement et ce rocher de l'obstination et ce rocher de mauvaise midote, et qu'on amène la lumière, mais t'es la femme de ma vie, t'es la mère de mes enfants, mais je t'aime, on est des fous, on est en train de se pourrir, viens on grandit, viens on évolue ensemble, viens. Oh, tu comprends rien, tu dépenses trop, t'as tes gros, t'as tes mecs, t'as tes vieilles. Quel gaspillage. Parce que de toute façon, on va mourir. Et on va vieillir. Et on va gagner de l'argent. Et on va perdre de l'argent. Donc de toute façon, la vie, elle va passer. Et la vie, c'est de la matière. Et la matière, c'est le rocher. Donc le rocher, il va passer. L'intéressant, c'est seulement, est-ce qu'on a réussi à produire du or avec le rocher? Or, rappelez-vous que la seule manière de produire de la lumière à partir de la matière, puisque la matière n'est pas éclairante, ouais, c'est de déstabiliser la structure énergétique de la matière. C'est une loi physique. Comment on fait du feu? Vous savez comment on fait du feu? Bon, vous prenez de la matière. Par exemple, le papier. C'est du papier. D'accord? Pourquoi il n'est pas lumineux? C'est du papier. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais mettre le feu au papier, avec du feu. Mais maintenant, je ne vais pas faire ça. Je vais frotter. Très, très vite. Il va commencer à fumer, et après, hop, il va prendre feu. C'est quoi le feu, là? D'où il sort ce feu? Qui a mis un briquet? Tu n'as pas besoin de mettre un briquet. Parce que quand tu déstabilises la structure énergétique de la matière, l'énergie qui est contenue dans la matière se disperse sous forme de chaleur et de lumière. C'est ça la définition physique du feu. Ça va? Oui ou non? Donc si toi tu veux que le feu entre toi et ta femme il redémarre, il faut déstabiliser la structure, il faut sortir de la routine, il faut éveiller des sentiments, il faut se confronter, il faut se frotter, pas se frotter, se frotter, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Oh, ça m'a fait du bien, oh, tu m'as fait la surprise, oh, tu es venu me chercher à la sortie du travail, oh, tu t'es remis en cause, oh, tu as grandi, oh, tu m'as dit c'est toi qui compte, c'est pas ma famille, oh, t'as bougé. Alors si t'as bougé, il y a le feu qui va recommencer. Les gens, ils installent tranquillement les meubles, le canapé, la télévision, les enfants, ils attendent. Si Dieu veut, ça va revenir. Ah, au début, c'était... Ah, maintenant, tu sais, on a été voir le psychologue, le sexologue, le traloïdologue, le monologue, on a vu tout le monde. Mais ah, ça marche pas. Parce qu'il manque le principal. Il manque le feu. Oh bien, le feu de l'amour. Ouais, c'est exactement pareil. Si toi, tu te frottes pas avec la Torah, il sort pas le feu de la Torah. Tu prends la Gemara, tu frottes, et le Rabbeck, et Baiger, et le marche, et tu frottes. Waouh! Tu dis, ça y est, j'ai compris le pshat. Tu t'es frotté. D'ailleurs, dans le mal aussi, on dit, eh ben, il fallait pas t'y frotter. Tu t'es frotté avec les Réchaïm. Tu attrapes le psoriasis des Réchaïm. Ça s'appelle la corruption. Ouais. Tu t'es frotté avec la gale, tu attrapes la gale. Tu t'es frotté avec la lèpre, tu t'es frotté. Mais quand tu te frottes avec les Tzadikim, tu attrapes la Kedusha. Et quand tu te frottes avec les gens qui évoluent, tu attrapes la maladie de l'évolution, tu évolues. Alors va te frotter. Va déstabiliser la structure énergétique de la matière. Va le faire. Il dit, ça c'est le dévoilement. Or c'est ce qu'il dit. Bema'ama yei or. Quand Hachem il a dit yei or, que la lumière soit, nidgalta bechinata giluy. Il a été dévoilé le principe du dévoilement. Nidgala a tochen. Alors à ce moment-là, il était nidgalé le tochen, l'intériorité des choses. C'est-à-dire que le principe de dire que quand on a créé une matière, mais la matière elle est inerte. Mais pour qu'on comprenne que dans la matière, dans l'extériorité, il y a de l'intériorité, que dans la superficialité, il y a de l'essentialité. Et c'est ça, il est or. C'est-à-dire qu'Hachem, il a ordonné à la réalité de se dévoiler. Ve'a'inu atachlit, c'est-à-dire le but, le projet. D'accord ? Donc c'est comme nous, c'est comme quelqu'un, il marche. Il marche dans la forêt, il traverse la jungle, et il rentre dans la rivière et il monte la montagne. Mais comment il fait ? Ouais, dis-moi, tu l'as dit, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'es tranquille chez toi dans ton village. Qu'est-ce que t'es parti là-bas ? Il dit parce que Yeshli Tachlit, j'ai un projet, j'ai un but. D'accord ? Maintenant, celui qui a un but, il peut traverser la jungle, il peut traverser les torrents. Mais celui qui n'a pas de but, chaque mètre, il le saoule. Le jour, j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit oui, moi, vous savez, Rabbi Chitrit, j'ai étudié la Torah, mais. Un jeune comme ça, il m'a dit, bon, mais je ne sais pas, est-ce que je vais être un Kolelman, est-ce que je ne voudrais pas habiter dans une maison qui n'est pas jolie, parce que mes parents, grâce à Dieu, ils ont une belle maison, et je ne voudrais pas avoir une voiture pourrie. Je dis, mais pourquoi tu parles de la voiture, de l'appartement ? Tu sais pourquoi ? Il m'a dit, je ne sais pas, parce que tu n'as pas de tachlit. Tu n'as pas de projet. Celui qui a un projet d'étudier la Torah et qui aime la Torah, qu'est-ce qu'il s'en fout d'être dans un appartement pourri ? Mais celui qui n'a pas de projet, donc lui, son projet s'appelle le non-projet. Qu'est-ce que je vais manger à midi ? Ah, j'arrête pas à me concentrer parce que j'ai pas mangé. Je comprends les mecs qui prenaient un repas tous les 3 jours, ils étudiaient 28 heures par jour. Toi, tu prends 6 repas par jour et t'es toujours faim. Tu dis, il n'y a pas un petit truc à grignoter. Tu sais pourquoi ? Parce que ton tahlit, c'est de bouffer. Ton projet, c'est de bouffer. Donc tu bouffes, t'es devenu un tube digestif vivant. On ne rigolait pas. C'est une maladie, ça s'appelle consommateur. Et tu consommes jusqu'à ce que tu meurs. Et tu meurs de quoi ? De tout ce que tu as consommé. Parce que tu as consommé et tu as mal consommé jusqu'à ce que ça t'a consumé dans la consommation. Mais nous ne sommes pas des consommateurs. Nous sommes des êtres vivants. Ouais. Nous sommes des béné Israël. Donc il faut qu'on aille chercher la lumière à l'intérieur de la matière. Donc quand tu dis « Baruch ata Hashem Elokeinu borei pri ha'etz » qui ça fait que tu as dévoilé le chesed Hachem, l'énergie divine qui est dans le fruit qui te nourrit. Ouais. Et quand tu fais une bracha sur la birkat, quand tu fais birkat Torah, ça veut dire que tu dis, attention, je ne suis pas en train de faire des mathématiques et de la philosophie. Je suis en train de faire un exercice de dvekout avec Hachem. C'est pour ça qu'ils avaient dit quand ils ne faisaient pas birkat Torah, ouais, ils sont morts parce qu'ils étudiaient la Torah comme des mathématiques. Mais nous, on est en danger parce que nous, on met des enfants dans l'école juive. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font tfila, français, mathématiques, italien, Mishnah. Oh, comment tu vas faire pour que la Mishnah ne devienne pas une matière ? Comment tu vas faire pour qu'il dise ça c'est de la Chokhma et ça c'est de la Dvekut Bashem ? Comment tu vas faire qu'il attrape la Yirat Shamayim pour que lui il attend d'avoir 8 sur 10 ou 7 sur 10 ou la moyenne dans la Mishnah ? Mais le problème c'est pas que tu as la moyenne dans la Mishnah, le problème c'est est-ce que tu aimes la Torah ? Alors est-ce que tu vas leur donner des professeurs ? Qui leur donne l'amour de la Torah, ou tu vas leur donner des professeurs qui leur apprennent à étudier la Torah. Parce que si tu leur donnes des professeurs qui leur apprennent à étudier la Torah, mais qui les dégoûtent de la Torah, parce qu'ils voient que le professeur, il fait l'inverse de ce qui est écrit dans la Torah, il fait l'inverse de ce que lui-même il dit, fais attention. Parce que peut-être qu'ils étaient mieux qu'ils étaient à l'école Goy, ouais, et après, quand ils ont vu la Torah, ils ont dit, waouh, la Torah c'est des folies. Mais maintenant que tu leur as donné une Torah pourrie, le jour où tu vas leur dire, alors la Torah, ils vont dire, mais la Torah c'est pourri. Oh là là. C'est ça que le Khatam Sofer, il a dit, que si vraiment quelqu'un, il n'a pas la patience, il n'a pas l'amour de la Torah, il vaut mieux qu'il n'enseigne pas à ses enfants, qu'il paye quelqu'un. Parce que lui, il va tellement dégoûter ses enfants qu'ils ne vont jamais étudier. Mais lui, il dit, moi c'est pour les aider. Répète, mais tu comprends rien. Qu'est-ce qu'il a dit au Moré ? Comment je paye ? À quoi ça sert ? Là, il dit, oh, 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 oh. Le curé, il est gentil. Jamais il m'a dit, répète la Mishnah. Jamais il m'a dit, qu'est-ce que tu fais à l'école ? Comme tu es, je t'aime. Et je ne te remets pas en cause. Et je t'accepte tel que tu es. Et je t'aime sans condition. Le curé, ah, quelle gentillesse. Il a fait une croix sur ton évolution, c'est normal. Ouais. Mais toi, comme tu as de l'ambition, alors des fois tu es maladroit à cause de ton ambition. Il faut être adroit malgré ton ambition. Maintenant, comment on appelle continuer à rester adroit malgré que tu as de l'ambition? Ça s'appelle la pédagogie. C'est-à-dire que tu attends beaucoup, mais tu exiges rien. Ouais. Tu attends beaucoup et tu exiges rien. Et tu suscites chez l'autre le besoin de devenir. Et pas que tu lui imposes de devenir. Parce que quand tu lui imposes de devenir, tu enlèves le choix. Or le choix, c'est le rocher. Et le rocher, il amène le dévoilement. Donc quand tu imposes le guilouille, ouais, donc il n'y a plus de choix. Et s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de rocher, donc il n'y a pas de nisayon, donc il n'y a pas de maturité. Ah. T'as compris, non? Donc trop d'obscurité, il n'y a plus de lumière. Trop de lumière, il n'y a plus d'obscurité. Donc maintenant on a un problème, c'est qu'on a besoin de la lumière et de l'obscurité. C'est ça qu'il dit toujours le Rav Dessler. Il dit Aïnou, il dit Mikol makom adain nishera bechinat or vechosher mishtamshim birruvia. Bien qu'Hachem a dit Yehi or, que la lumière soit, quand même il reste un principe, un concept, que la lumière et l'obscurité mishtamshim birruvia, ils sont utilisés, ils coexistent. C'est-à-dire que maintenant, depuis la faute de Adam Rishon, il y a la lumière et l'obscurité sont ensemble. D'accord? Donc il y a de l'obscurité dans la lumière et il y a de la lumière dans l'obscurité. Tu vas avoir des Rechaim qui vont faire des actes extraordinaires et tu vas avoir des Tzadikim qui vont te décevoir. D'accord? Et tu vas avoir des grandes écoles qui font des erreurs et des petites écoles qui font des grandes choses. Ou le contraire. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Parce que maintenant le or et le rocher ils sont mélangés. Maintenant, puisque le or et le rocher ils sont mélangés, ça veut dire que la mitzvah c'est le birour. C'est la séparation. Les Avdil, Ben Or, les Chosher. Ou Ben Israël, la Hamim. Ou Ben Tamé, la Taor. C'est la mitzvah de la Avdala, pas de la Abdala. Abdala, c'est déjà une autre dimension. Il dit comme ça. Shoresh, Bechinat, Chitsuniyut, Sheyeshba, Nekudat, Pnimit. Il dit, c'est la racine de la dimension extérieure qui contient un point intérieur. C'est que maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a habillé le spirituel avec du matériel. Donc toi, il va falloir que tu fasses des beaux repas de Shabbat pour aller chercher l'intériorité, la spiritualité du Shabbat. D'accord? Et tu vas faire une belle bar mitzvah pour que l'enfant, il comprenne l'importance de la mitzvah. Mais non, si tu veux qu'il comprenne l'importance de la mitzvah, tu le prends pendant une semaine dans une yeshiva avec un tzaddik, toute la journée, il va le voir, il va étudier avec toi. Là, il a compris, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une fête et tu mets de l'ambiance et t'invites toute la famille, ils sont venus de partout. Ils sont tout nus, tu as mis des orchestres de noirs qui chantent pendant 3 heures, et tu as fait des danseuses arabes, et tu lui as même laissé une pour lui, comme ça il va devenir un homme. Ça, c'est pas une bar mitzvah, c'est une bar minan. Bar minan, ouais. Mais tu sais, oh, quelle fête on a fait, quelle fête. D'ailleurs, tellement que ça le prépare à son avenir, que toi-même tu dis c'était une soirée d'enfer. Ça veut dire c'est... C'est petit hala Geinam, c'est la porte du Geinam qui est devant lui. Ouais. Parce que toi, tu veux lui donner. Parce que pourquoi tu fais ça à la bar mitzvah? Fais là une autre date. Par exemple, le jour de sa mort. C'est dommage de faire ça le jour de la bar mitzvah. Parce que c'est le jour où sa neshama devient complète. C'est le jour où il devient un juif à part entière. C'est le jour où Hachem va s'adresser directement à lui. Et ce jour-là, qu'à peine il sort la tête de sa gaminerie, tu lui mets 50 tonnes de touma sur la tête. Et après, tu dis j'espère qu'il va s'en sortir. Mais comment il va faire le coup? Comment il va faire? C'est impossible. Ce qui est marqué ici, il dit que on va montrer l'importance. D'ailleurs, ce Shabbat, en fait, c'était pas un Shabbat plein, c'était un Shabbat de Bat Mitzvah. D'accord? Et un monsieur m'a téléphoné, il m'a dit écoutez, on fait un Shabbat de Bat Mitzvah. Déjà, la Bat Mitzvah, chez nous, on fait pas vraiment la Bat Mitzvah. D'accord? Mais lui, c'est pas qu'il a fait une petite réunion avec les copines. Il a fait un Shabbat de Bat Mitzvah. Il a loué un hôtel, il a invité ses amis. Il a invité 40 copines. Ça lui a coûté un bras ou la deux. Ouais. Il a dit, mais je veux que vous veniez parce que vous allez faire un message. Donc moi, du coup, j'ai fait 6 conférences dans le Shabbat. Maintenant, les gars, ils étaient venus au départ pour une bat mitzvah, ils sont ressortis avec un séminaire. Il m'a dit, c'est ça que je veux. Je veux qu'il y ait un Kiddush Hashem, je veux que les gens ils grandissent, je veux qu'ils évoluent, et je veux que les cours que vous allez donner, ils soient un mérite pour ma fille. Le gars, il est malin. Pourquoi il va dépenser 25 000 euros d'un traiteur, il ne va pas amener un rave qui lui donne un message? C'est une intelligence. Ou non? Tu dis non. Oh, on a bien mangé. Oh là là, merci. Merci de nous avoir invités. Vraiment, qu'est-ce qu'on a pu manger? Oh là là, vraiment, grâce à toi, si Dieu veut, le taux de cholestérol, il a au moins doublé. Au moins doublé. D'accord? Ça s'appelle que tu vas prendre de la ruchaniyut et tu vas l'habiller avec de la gashmiyut. Il dit, veinu, emet vesheker meuravin. Ça s'appelle la vérité et le mensonge qui sont mélangés. Kavar les. Alors c'est ça ce qui est marqué dans le texte. Ah oui. Kavar les etrumo bayom ou les etrumo balayla. Ça ce qui est marqué. Hachem, il a fixé la limite de la lumière dans la journée. Et il a fixé la limite de l'obscurité dans la nuit. D'accord? Parce que vous avez remarqué que le jour, il fait nuit. Le jour, il fait jour. Et la nuit, il fait nuit. Maintenant, le jour, en vérité, le jour, c'est quoi? C'est une temporalité. D'accord? Et la nuit, c'est une temporalité. Donc, et c'est quoi une temporalité? C'est un espace. Maintenant, c'est quoi la nuit? C'est pas la nuit, genre il fait nuit. La nuit, c'est quand tu comprends rien à ta vie. Ça s'appelle la nuit. Ouais. Et le jour, c'est quand tout est clair, que tout est facile. Ça, avec ta femme, ça va bien. Avec le business, ça va bien. Avec les enfants, ça va bien. Ça, c'est le jour. Et quand ça va pas, c'est la nuit. Quand tu comprends rien, tu dis comment je vais faire avec cet enfant? Je m'en sors pas avec le business. Il faut que je trouve 200 000 euros avant la fin du mois. J'ai les fournisseurs qui me crèvent. Ça, c'est Laïla. C'est pour ça que c'est marqué. Les agid baboker hasdecha ve'emunatecha valelot. La nuit, il faut avoir la emuna. Mais le jour, ouais, quand il fait, ça va bien dans ta vie. Les agid baboker hasdecha. N'oublie pas de dire merci. Ouais, parce que quand ça marche, tu dis c'est grâce à moi, je suis un super vendeur, t'as vu comment j'ai éduqué les enfants, t'as vu ma femme, comment je la rends heureuse, tu crois que c'est toi? Alors on va voir maintenant que ça va pas, tu vas dire c'est toi. Ah, tu dis ouais, ma femme elle comprend rien, mes enfants ils m'ont pas écouté, le business, personne n'a compris que j'étais en avance sur le marché. Ah c'est ça, quand ça marche pas c'est la faute des autres, et quand ça marche c'est grâce à toi. Non, quand ça marche c'est grâce à Dieu. Et quand ça marche pas, c'est pas grave. Parce que Dieu, il va t'aider. Donc la émouna, c'est quand ça va pas. Et la reconnaissance divine, c'est quand ça va bien. Tu dis, et moi. T'en fais pas, toi, tu t'oublieras jamais, toi. J'ai vu un gars qui s'oublie. Si les deux vous tombez du bateau, et qu'il y a une seule bouée, et c'est toi qui l'as, tu crois qu'il va la donner. Ça, c'est marqué. Ve'ahavta le'reaha kamocha. Moi, j'ai jamais compris ça. Pourquoi c'est marqué Ve'afta le Reaha Kamocha? Fallait dire Ve'afta le Reaha, c'est bien. Oui. Pourquoi Kamocha? Parce que tu dis, mais comment je vais l'aimer? Comment je vais l'aimer? Aime-le comme toi déjà, c'est beaucoup déjà. D'accord, oui ou non? Parce que toi, tu n'oublieras jamais de t'aimer. C'est très rare que quand quelqu'un il a une tablette de chocolat, il appelle toute la synagogue. C'est très rare. Il s'assoit chez lui à la maison, il mange la tablette, doucement. C'est une tablette de chocolat. Ouais.
Après il vient.
Parce qu'il sait qu'on est 60. Il dit une tablette pour 60, c'est dommage. Alors qu'une pour moi tout seul, c'est normal. Ouais. Alors ça, c'est un langage des Chachamim. Chachamim dit Ta'ava, mevakesh nifhad. Ta'ava, le plaisir, ouais. Mevakesh exige nifrad de la solitude. C'est très rare que quand un gars il a trouvé une femme une folle qui est prêt à coucher avec lui, il invite toute la famille. Non, il va y aller discrètement et surtout il ne va pas mettre sa femme au courant qui a un esprit un peu obtus et qui risque de ne pas comprendre. Parce qu'il y a des femmes comme ça qui ne comprennent pas que de temps en temps tu as besoin d'un peu d'exotisme ou là de changer un peu des couleurs et un peu de fantaisie. Ouais. Alors tu ne vas pas lui dire. Alors que si vraiment tu penses que c'est nécessaire pour ta santé mentale, ouais. Donc tu devrais lui dire, écoute chérie, toi, Eshet Haïl, le Mikveh, la Kedusha, la Mizva, extraordinaire, mais de temps en temps j'ai besoin de autre chose. Alors tu dis, mais t'es un animal. Animal. Ata bien, mais animal. Ouais. C'est ça la logique. Ça s'appelle le Chosher à l'intérieur du or. Maintenant quand toi tu vas voir une situation, tu vas voir quelqu'un, tu vas le voir mal, c'est le Chosher à l'intérieur du or. Ouais. Et quand il va dire non, il faut juger les caves de croûte du bon côté, c'est le or à l'intérieur du rocher. Et quand il va y avoir un accident de voiture, mais tu vas dire bon, Hachem, on s'en est sorti, ça s'appelle la lumière à l'intérieur du rocher. Mais si toi tu dis, mais tu te rends compte, on a cassé la voiture, il dit d'accord, mais tout le monde s'en est sorti, d'accord, on a cassé la voiture, ça c'est le rocher à l'intérieur du or. D'accord? dit ça, ça. Alors il dit, Ve'ainu emet veshekom yehoavin, et ça s'appelle la vérité et le mensonge qui sont mélangés, kava les etromo bayom ou les etromo balaïla. Rashi dit, Ve'ainu, ça c'est Rashi, Ve'ainu shoresh abechira atova. Et ça c'est la racine de la bechira atova, c'est-à-dire du bon choix, avdalat atov me'ara. C'est de séparer le bien du mal. Donc vous avez compris maintenant que Hachem ne peut pas te donner le libre arbitre si toi tu n'as pas l'occasion de te tromper. Et l'occasion de se tromper, c'est quoi? C'est le kosher. Vous suivez? C'est-à-dire que si tu n'as pas le nisayon, quelle est la valeur de ta mitzvah? Donc Hachem, il a mélangé la lumière et l'obscurité. Et toi, ta mitzvah, c'était de mavdil ben or les rochers. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle le dévoilement. Et qu'est-ce que c'est le dévoilement? C'est la prise de conscience. Alors maintenant, on arrive à un truc bizarre. Parce que vous allez dire, mais alors où il est Hanouka? Maintenant, quand vous écrivez le mot Nisayon, Nisayon, ça s'écrit Nun, sa mère, Yud, Vav, Nun. Ouais, Nisayon. Mais quand vous le coupez en deux, les deux premières lettres, ça fait Nes. Et les deux dernières lettres, ça fait Yavan. Yud Vav Nun, c'est Yavan.
La Grèce.
Ah là, c'est le bit, la Grèce. Ouais. Vous avez compris ou non? Nisayon, c'est Nes Yavan. Maintenant, c'est très bizarre parce que Nes, c'est quoi? C'est le Nes de la lumière. Et Yavan, c'est le Rocher. Parce que Yavan, ils ont amené l'obscurité. Ça m'a pas vas-y. Nisayon, Nesiyavan. D'accord? Ça veut dire que le Nisayon, attention, c'est très grave, le Nisayon, c'est ce qui permet le Nes. Donc, et comme il est basé sur le Yavan, donc c'est Yavan qui provoque le Nes. Wow. Parce que s'il n'y avait pas l'obscurité, comment tu vas connaître la lumière? Donc maintenant, on a un problème, maintenant, on se retrouve avec une obscurité qui est positive. Je vous ai dit cet exemple il y a très très longtemps, mais je ne sais pas dans quelle mesure vous révisez tous les cours que je vous donne, si vous les mettez par écrit et ensuite que vous essayez de les intégrer pendant quelques mois en étudiant chaque jour un passage. Halom tov, halom shalom. Mais c'est dommage, parce que la semaine dernière j'ai fait un shiur à 45 bahourim. Les gars ils m'ont dit, mais c'est Ramoshe Shapira. J'ai dit, oui, mais comme je dis des blagues, alors les gens ils croient que c'est Gad Elmaleh, Havan al Hazman. Alors je vous donne l'idée. C'est quoi l'idée? Ça, c'est un exemple qui m'a été donné par un Mekoubal il y a à peu près une trentaine d'années. Imaginez une pièce, mais en extérieur, comme une véranda, d'accord? Et cette véranda, elle donne sur l'extérieur. Et dedans, il y a des meubles, d'accord? Il y a des canapés, il y a des chaises, il y a une table de salon, il y a un salon de jardin. Mais il y a tellement de lumière que vous ne la voyez pas. Oui? Ouais, ça c'est vieux, ça. Maintenant, quand le soleil va s'éloigner un peu, d'un seul coup, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dans la pièce. Alors, il dit, c'est exactement pareil. Il dit, quand Akadosh Baruch Hu, au départ, il donne la lumière, elle est tellement forte que la matière ne peut pas exister. C'est comme quand vous sortez d'une caverne, vous êtes ébloui, vous ne voyez rien. Donc, d'un côté, la lumière, elle est claire et elle permet de voir, mais d'un autre côté, la lumière, elle aveugle. En fait, c'est un dosage. Quand il y a trop de lumière, ça aveugle, et quand il y a moins de lumière, ça fait apparaître. Donc ça veut dire que, si on dit que la lumière c'est le Ratzon Hashem, donc ça veut dire qu'il a fallu qu'Hashem, il s'éloigne un peu, s'appelle Esther Panim, ouais, et ça c'est quoi? C'est le Teva. C'est-à-dire qu'Hashem il s'est caché derrière la nature, et la nature elle fait comme un écran devant la lumière, et cette baisse d'intensité de la lumière, elle fait apparaître la matière. Ça va? Maintenant toute la vie c'est comme ça, parce que quand j'ai un Nisayon, je sais que ce Nisayon, cette épreuve-là, elle est faite pour faire apparaître de la lumière, c'est-à-dire un niveau de maturité que je ne vais pas avoir par rapport à ce Nisayon. Mais ça, c'est le tachlit, c'est le projet à obtenir. Mais malheureusement, quand je suis dans le Nisayon, je ne pense pas à la lumière, je pense au Nisayon. Ouais, d'accord, moi j'ai appris qu'il ne faut pas voler, et je sais que ça sert de voler, et jamais on doit voler, et Chazbe Shalom qu'on vole, et c'est marqué l'Otixol, et c'est marqué l'Otéchaker, et c'est marqué l'Otéchakerou, et c'est assur de voler, et les Juifs et les Goy, d'accord. Mais maintenant, je rentre, et je vois que je rentre dans la cabine d'essayage du magasin, d'accord, et il y a un gars qui sort juste devant moi. Il sort, tac, et moi je rentre juste après lui. Et je vois un billet de 500 euros par terre.
Il y a la plaie,
hein,
on
veut
dire.
Non, J'ai à peine fermé la porte, le gars il tape. Ta 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 ta. Excusez-moi, j'ai perdu quelque chose. Excusez-moi, j'ai perdu quelque chose. C'est sûr de voler. Mais 500 euros, en plus un sale goy. Peut-être c'est une mitzvah. Tu as vu ton épreuve? Je rappelle que pour les Sfaradim, voler un goy, c'est comme voler un juif, c'est assour. Et pour les Ashkenazim, c'est au moins mitam chinour que c'est assour de voler, de toute façon. Ouais. Donc normalement, tu dois ouvrir. Tu dis, mais c'est ça que vous cherchez, monsieur? Le gars dit, oh, vraiment, je ne m'attendais pas de la part d'un juif. D'accord. Donc tu lui rends, d'accord. Quand j'étais jeune homme, j'ai commencé à être plus sérieux dans la religion. Alors, plusieurs fois, j'ai eu des épreuves comme ça. Un jour, j'étais à la poste, c'était comme ma banque, et j'avais par exemple, j'avais 2000 francs. Alors, j'avais 1000 francs. Alors, j'ai dit à la femme, vous mettez 1000 francs dans ce compte. Après, j'ai dit, non, après, vous les mettez dans le livret. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis 1000 francs là, 1000 francs là. D'accord? Et elle m'a rendu 1000 francs. J'ai rien compris. Je ressors, j'arrive à la maison, je compte l'argent, je trouve 1000 francs. Je me rappelle, j'avais acheté un rasoir. C'est pas possible, j'ai acheté un rasoir à 200 francs, il me reste 800 francs. Mais comment, c'est pas possible? D'où sortent ces 800 francs? Ah, donc elle m'a rendu les 1000 francs. Donc elle m'a rendu 1000 francs et elle m'a mis 1000 francs dans le compte. Et moi, je lui avais donné genre 1000 francs. Ouais. Donc c'est un truc qui va pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une très grande kippa. C'est une kippa qui s'appelle Ziana, très très connue. Je suis retourné à la poste. Je lui ai dit bonjour madame. Bonjour. Elle m'a dit, vous vous rappelez de moi? Je suis venu hier. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, ben, vous avez fait une erreur. Dire, j'ai honte. La chef de la poste, elle est venue, elle m'a dit, écoutez monsieur, colle à cavode, parce que cet argent, il allait être prélevé de son salaire. Ouais. Et vous êtes revenu, vous avez rendu l'argent, vous n'étiez pas obligé de rendre l'argent, vous pouvez dire, moi je ne suis pas au courant. Ouais, on ne peut rien vous exiger, parce que c'est elle qui a fait une erreur. Vous avez fait, je dis, mais pourquoi je suis revenu? Pourquoi je suis revenu? C'est pas pour les 1000 francs. Mais non, non, non. C'est que tu peux décider où tu peux être. Un vecteur de Kiddush Hashem, ou tu peux être un vecteur de Hilul Hashem. Maintenant, des fois, tu dis, non, je suis ni l'un ni l'autre, le parvé. Mais, encore une fois, si tu es sur la photo, c'est que le bon Dieu t'a posé la question. D'accord? Donc maintenant, toi, tu avais besoin de ce rocher pour faire un dévoilement de la lumière. Donc, ça veut dire que quand Hashem, il fait baisser la lumière, ça veut dire, et c'est en baissant la lumière, on a dit qu'il fait apparaître la matière, mais c'est aussi en baissant la lumière qu'il fait apparaître la réalité, et c'est aussi en baissant la lumière qu'il fait apparaître le choix. Parce que c'est quoi le choix? Le choix, c'est que tu as deux possibilités. Mais en vérité, c'est faux. Ouais. Parce que ta conscience, elle t'a dit ce qu'il faut. Mais tes intérêts, ils t'ont dit autre chose. Donc quand tu dis, j'hésite entre mes intérêts et ma conscience, mais c'est pas un choix. C'est est-ce que tu as un rachat ou un sadique? C'est comme si tu regardes une autre femme. Toi, tu dis, c'est pas évident. Mais comment c'est pas évident? T'es marié ou t'es pas marié? Si t'es marié, c'est évident. Si t'es pas marié, on se demande des clans, pourquoi t'as une question? Vas-y, va tromper ta femme. Donc en vérité, quand tu t'es engagé à être marié, automatiquement, le choix a disparu. C'est ce qui est marqué. Natati lefanecha et ahaim betamavet ou bacharta bahaim. Mais pourquoi il dit bacharta bahaim? Pourquoi tu choisis la vie? Il aurait dû dire Natati lefanecha et ahaim betamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Vas-y, voilà. Et voilà, c'est ça la vie. Et bien, des fois oui, des fois non, des fois oui, des fois non. Non, 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 non. Toi, ta mitzvah, bacharta bahaim. Ça veut dire que le libre arbitre, il a été donné pour que tu renonces au libre arbitre. Incroyable, non? Alors tu dis, ouais, alors à ce moment-là, si on veut que je renonce au libre-arbitre, on n'avait quand même pas de me donner le libre-arbitre. Mais tu n'as pas compris. La valeur de ton libre-arbitre, elle vient du fait que tu as renoncé au libre-arbitre. Mais si tu ne pouvais pas renoncer au libre-arbitre, puisque tu n'avais pas le libre-arbitre, alors ça ne s'appelle pas du libre-arbitre.
C'est le choix.
C'est ça, c'est le choix. Voilà. Il dit maintenant, et le choix, il crée chez toi un stress. Et le stress s'appelle l'embarras. Ça s'appelle l'embarras du choix. D'accord? Mais toi, tu es là pour faire la Avdala. C'est pour ça qu'on a dit Mina Rocher, Yotzer Or. C'est de l'obscurité, elle sort la lumière. Donc ça veut dire que la matérialité, en vérité, elle te donne la possibilité de te tromper. D'accord? C'est comme le Yetzer Hara, c'est Amalek. D'accord? Et Amalek, c'est ça fait que c'est le doute. Mais le doute, il participe à ton choix de maturité. Et Amalek, c'est ça fait que c'est le doute. Et c'est les mêmes lettres que Psak. Et Psak, c'est quoi? C'est tranché. Donc, où tu entretiens ton Safek, où tu es Posek. Où tu fais Psak, où tu fais Safek. C'est les mêmes lettres. Maintenant, quand tu fais Psak, c'est ça, on dit un Psak Alaha. Un Psak Alaha s'appelle un choix de vie. Un choix de vie. Mais quand tu veux le Safek dans l'Alaha, Bon, les gens m'appellent, écoutez, Rav, je ne sais pas si ma femme m'a trompé, qu'est-ce qu'on fait pour le Shalom Bayit? Je dis, non, d'abord, on va voir un Dayan qui va dire si elle est moutérette ou non, et après, on va voir. Ouais. Rav, comment on fait? Écoutez, on n'arrive pas à avoir des enfants parce qu'elle ovule avant le mikvé. Alors, est-ce que on peut faire avoir des rapports sexuels pendant le deuxième jour de Nida? Il ne faut pas demander à un rabbin, demander à un gynécologue. Le rabbin, il te dit, il faut qu'elle aille au mikvé. Pourquoi tu me demandes à moi? Déjà, une fois, il m'a expliqué tout un traloël. Je dis, tu veux que je t'apprends comment est volé? Volé, tu n'as pas besoin de moi. Moi, je te dis qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est assourd. Après, c'est toi et ta conscience. Maintenant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rocher, en fin de compte, c'est le choix. Et il t'oblige à faire des choix. Et un homme ne grandit que par ses choix. Raphaël Choulovitz, il dit, on reconnaît la grandeur de quelqu'un à assumer ses responsabilités. Et la responsabilité, c'est quoi? C'est de sublimer l'obscurité du choix. Et que tu fais un choix et tu te tiens à ce choix. Alors si c'est comme ça, ça veut dire on a compris maintenant pourquoi. Est-ce que le fondement maintenant de la création de l'homme, c'est le libre arbitre. D'accord? Mais ce choix-là, c'est ce qui rend aussi possible le shogeg. Parce que quand Hachem il a baissé la lumière, c'est ce qui fait qu'un homme, il peut aussi être involontaire. Et c'est ce qui a créé Midat HaRachamim. Et c'est ce qui a donné qu'on a du crédit. D'accord? Parce que pourquoi il y a la possibilité de te tromper? Justement parce que la lumière, elle n'est pas trop dévoilée. Et pourquoi le futur, il est inconnu? Et pourquoi c'est que tu ne connais pas le résultat des choses? Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de cette ambiguïté-là. On a besoin de ce rocher pour que toi, tu fasses le dévoilement. Maintenant, c'est quoi la démarche pour arriver à ça? Alors, c'est écrit dans le pasouk. Ner mitzvah betorah or. Ner mitzvah, le ner, la lampe, c'est la mitzvah, et la Torah, c'est la lumière. Donc maintenant, c'est quoi le ner? Le ner, en fin de compte, tu as compris, c'est que quand je suis en face d'une réalité, je ne sais pas comment faire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire comme ça, je dois faire comme ça, je dois choisir la philosophie, je dois choisir le principe, j'ai écouté mes pulsions, je dois écouter mon intuition, je dois écouter mes nerfs. Pourquoi tu te casses la tête? Tu écoutes l'halakha. La halakha, c'est le ner. La mitzvah, c'est le ner. Hachem, il a donné une mitzvah pour chaque situation, pour chaque acte. Donc en vérité, il t'a donné le moyen. Les goyim, ça fait 5700 ans qu'ils cherchent, ils ne trouvent pas. Ils changent la philosophie, le bouddhisme, le capitalisme, le tradouidisme, le néologisme, d'accord? Mais nous, on a déjà la clé. Ça fait 3500 ans qu'on fabrique des tzadikim, on a les clés, on sait. Ça s'appelle ner. Ça, c'est le ner, c'est la mitzvah. Donc par contre, le or, c'est le moyen obtenu. Ça veut dire que le niveau de maturité que tu vas atteindre grâce au moyen. Maintenant, comme il existe un or qui se dévoile dans ta tête parce que tu as compris la situation, et comme quand tu as compris la Guémara, et comme quand tu as compris ta femme, et comme quand tu as compris qui c'est Hachem, et comme quand tu as compris que le mal, en fin de compte, c'était pour ton bien, maintenant tout ça, ça vient du fait que toi, tu as une démarche de mitzvah. C'est-à-dire que Ner Mitzvah Betorah Or, en vérité, c'est un programme. C'est pas une image comme ça de dire ça, c'est joli, Ner Mitzvah Torah Or. Non, non. La preuve, c'est que la lumière, vous savez, dans la flamme de Hanouka, la flamme, elle flottait au-dessus de l'huile. Il y en a qui disent qu'en fait, c'est pas que l'huile, elle a duré 8 jours. C'est l'huile, elle n'a pas bougé. Mais la flamme, elle flottait au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un, il produit quelque chose, quand quelqu'un, il fait quelque chose, quand quelqu'un, il grandit avec quelque chose, en vérité, ce qu'il obtient, c'est pas forcément le fruit de ce qu'il a fourni. Par exemple, on dit que quelqu'un, il doit être Omel Batora. Il faut se fatiguer dans l'étude de la Torah. De l'autre côté, on dit Atora Nitna Bematana. La Torah est donnée en cadeau. Alors je comprends pas pourquoi je me crève alors. Parce que toi, ta part à toi, c'est de te fatiguer sur la Gemara. Mais le bon Dieu, il t'envoie la lumière de... Donc la lumière, tu ne vois pas qu'elle est liée directement à la flamme, à la mèche. Donc elle flotte au-dessus. Et toi, tu fais tout pour tes enfants. Et Hachem, il les éduque bien. Et toi, tu fais tout pour ton couple. Et Hachem, il t'envoie le Shalom Bayit. Tu dis, mais je suis pas à la maison. Hachem, il t'envoie le Shalom Bayit. Parce que toi, tu fais ta Ishtadlut au maximum. Ça veut dire que même si quelqu'un, il comprend que dans 100%, il y a 90%, c'est Dieu. C'est pas grave. Dans les 100%, 90% c'est Dieu. Oui, il dit le Chazon Ish. Mais les 10% qui te reviennent, tu dois les faire à 100%. Vous me suivez ou non? Les gens, ils font le contraire. Ils disent, moi, c'est moi qui ai les 90%. Mais tu sais quoi? C'est tellement énorme les 90% que je fais rien. Donc soit il a la gava de croire qu'il maîtrise tout, et le bon Dieu, il explique qu'il maîtrise rien. Soit il croit qu'il va tout faire, et en fin de compte, il est tellement paresseux qu'il fait rien. Mais s'il accepte qu'en vérité, il n'a que les 10% à faire. Tu dis, ah, ouf, j'ai que les 10%. Moi, je passe un peu de temps avec l'enfant, et bien, Hachem, il est bien sorti. Et moi, je suis sincère avec ma femme, et Hachem, il m'envoie le Shalom Bayit. Et moi, je suis. Donc, moi, je fais que 10%. Il dit le Chazon Ish, mais attention que les 10%, tu les fais à 100%. Et croyez-moi que c'est pas facile de faire le 100%. Ouais, enlever l'orgueil, la bêtise, la lourdeur, le transfert de culpabilité. C'est pas facile de faire les 10% à 100%. Il dit maintenant, quand tu le fais, et ça, c'est pour ça que c'est marqué, qu'en fin de compte, à Hanouka, qu'est-ce qu'ils ont voulu, les Yévanim, ils ont voulu amener cette lumière artificielle. C'est comme si tu dis la meilleure des ampoules, elle ne peut pas remplacer le soleil. Et bien eux, ils ont voulu donner la philosophie, ils ont voulu donner la science. Et ça, ça s'appelle Irshirou, ils ont obscurci. Maintenant, il y a beaucoup de juifs qui sont tombés dans ce piège, qui ont pensé la tentation hellénique, d'accord ? La tentation philosophique, la tentation de la matérialité, la tentation que tu crois que parce que tu as une belle maison, tu es heureux, et parce que tu as un corps musclé, alors tu es en bonne santé, alors qu'une rupture d'anévrisme, elle peut arriver chez un grand sportif, d'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu t'es trompé, tu as pris le rocher, tu as regardé la beauté du rocher, tu as oublié que le rocher, il n'était qu'un moyen pour amener. Maintenant, pour arriver à ça, il fallait qu'il y ait la lutte. Maintenant, pourquoi ils ont lutté les Hashmonaïm ? Oui, pourquoi ? Ça, ce qu'on a dit, Yagarta ou Matsatata Amin, c'est parce que tu t'es fatigué, parce que tu as fait ta part à toi, parce que tu as lutté contre le rocher. Alors c'est ça qui a provoqué le Nes. Maintenant, on a dit que le Nes, il était justement dans la lumière. C'est-à-dire que le Nes de Yavan, le Nisayon de Yavan, il était d'amener la lumière. Et cette lumière-là, elle n'est pas dans la temporalité et elle n'est pas dans la matérialité. Ce n'est pas une lumière intellectuelle, ce n'est pas une lumière philosophique, ce n'est même pas une lumière physique, ouais, ce n'est même pas une lumière réelle. C'est pour ça qu'on doit rester devant les lumières, mais on n'a pas le droit d'être né. Et là, lire Otam Bilvad, seulement de les regarder. Ouais, tu n'as pas le droit de profiter. Si tu prends, tu dis, tiens, je vais lire le journal avec la lumière de la Hanoukia, c'est assour. Pourquoi ? Parce que ça, ce n'est pas une lumière qui est liée à la matérialité. Si toi, tu l'utilises pour la matérialité, tu la ramènes à la matérialité. Or, ça, c'est le but du monde. Ça, c'est la lumière cachée que des tzadikim. Ça, c'est les premières lumières, la première lumière que Dieu a créée et qui n'a été utilisée que pendant 36 heures. Parce que dès que Dieu il a créé les luminaires, dès que Dieu il a créé le soleil, c'est fini. La première lumière, elle a arrêté d'être utilisée. Et après, la lumière est venue du soleil. Mais pendant 36 heures, on a utilisé la lumière, le Oraganus, la première lumière. Oui. Maintenant, on a utilisé cette lumière pendant 36 heures. Et combien il y a de Nérod dans Hanouka ? 36. Donc les 36 Nérod de Hanouka, ils correspondent aux 36 heures où on a utilisé la vraie lumière, qui elle-même est la lumière cachée des Tzadikim, que les Yévanim ont voulu obscurcir avec une autre lumière artificielle qui s'appelle la philosophie, et que les Hashmonaïm, ils ont provoqué le miracle, parce qu'il y a eu le Nes Yavan, le Nisayon, pour faire ressortir cette lumière spirituelle qui va nous éclairer jusqu'à la fin des temps, Bézat Hashem. Adakobao. On va même pouvoir faire un vie. Donc le cours est dédié pour la réfoua chez les mains de tous les malades d'Israël, et en particulier pour le Rav Chaim Zvi Ben Sarah, Amen. Et aussi pour Simcha Bat Flecha, pour Esther Bat Flecha, et pour Chaim Ben Oshra Rose, Amen. Et pour Yael Eliezer Yaakov Ben Yael. Pour l'année prochaine. Chaim.
Chaim
Messan. Chaim Messan
Ben.
Germin.
Amen.
Salah Bat Nazir. Amen. Bat Nazira. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes malades? Sami Ben Rosa. Amen.
Oved Ben Rosa.
Amen.
On peut arriver de l'autre côté.
Judith Bat Clara. Amen.
Shai Ben Arié.
Amen.
La prochaine date.